Aujourd'hui, on débrief la 8e journée de top 12 et on va particulièrement se focaliser sur Cholet avec la présence de Léa Palermo. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de
21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational.
I'm the bad guy.
Take that.
Et comme je viens de le dire, on reçoit aujourd'hui Léa Palermo pour parler plus spécifiquement du club de Cholet. Salut Léa, merci beaucoup d'être là pour cet épisode.
Salut les gars, merci et merci à vous pour votre invitation, je suis très contente.
Et je suis comme d'habitude accompagné de Benoît. Salut Benoît.
Salut Ewan, salut Léa.
Alors Léa, première question, je vais pas vraiment te demander de te présenter parce que je pense que la plupart de nos auditeurs et auditrices savent qui tu es, mais plus un peu peut-être ton parcours avec Cholet. Ça fait maintenant 4 saisons, me semble-t-il, que tu y es. Comment ça se... tu peux nous dire peut-être comment ça se passe jusqu'ici et depuis ton arrivée, parce qu'on sait que ça a été un peu les montagnes russes pour toi.
Ouais, clairement, c'est vrai que les montagnes russes, c'est vraiment la bonne définition de moi avec Cholet. Effectivement, c'est je suis arrivée il y a 4 ans dans une période juste après le Covid, en fait, finalement. On a eu le club a eu la chance pour le coup d'être maintenu en top 12 suite à l'arrêt brutal lié au Covid. Du coup, moi, j'ai pu profiter de cette période de creux un petit peu pour être recrutée par ce club. Moi, j'avais toujours eu en tête ce club-là parce que je savais à quel point il était familial, convivial et en même temps aussi très professionnel. Moi, je suis arrivée dans un contexte effectivement particulier parce que c'était le Covid, donc on n'avait pas beaucoup de compétitions internationales à l'époque. Le club, ça a toujours eu une place particulièrement importante à la fois dans ma carrière et puis dans mon cœur, parce que je suis restée 14 ans à Grenoble et 5 ans aussi au Bacli à Lyon. Donc ouais, moi je fais partie des joueurs très fidèles à leur club et Cholet, c'est bon pour le coup. Là, je suis très heureuse de pouvoir parler de Cholet avec vous ce soir, parce que à l'heure où je vous parle, je suis une joueuse qui a repris du service et qui, malgré ces années compliquées, a montré de la persévérance pour pouvoir représenter à nouveau les belles couleurs de Cholet. Pour répondre à ta question du départ, pour moi, Cholet, c'est une très belle histoire qui s'est construite, avec des hauts et des bas liés forcément à mes blessures, mais avec un projet avant tout très ambitieux, ouais.
Ah bah justement, ce projet, tu m'offres une belle transition. On reviendra après sur ton parcours personnel et notamment ton retour de blessure. Mais d'abord, sur l'équipe, quel bilan, toi, tu tires des dernières saisons où tu étais toujours très présente avec le club, on va dire, en dehors des terrains, au niveau du recrutement de l'extérieur? Avec Benoît, on a l'impression que Cholet, depuis ce maintien un peu miraculeux, comme tu l'as dit, avec le Covid, ça n'a fait que monter en puissance, avec un recrutement qui a toujours l'air assez intelligent, et vous êtes passé d'une équipe un peu du milieu du tableau à cette année jouer les playoffs. Quel bilan tu tires de ces dernières saisons à Cholet?
C'est clair que effectivement, toutes ces années-là, on avait l'impression que le club montait en puissance, à la fois dans l'intelligence, comme tu le dis, des recrutements, et puis aussi juste tout simplement le niveau qui est affiché sur le terrain. Je pense qu'on fait partie des équipes des plus homogènes. Je pense que c'est pas un secret. Aujourd'hui, le championnat interclub, ça dépend un peu de qui est là sur le terrain. Ça dépend du calendrier international. On est dans une période de qualification olympique où quand t'as les grosses têtes des gros clubs ne sont pas là, t'as des clubs comme nous potentiellement qui peuvent rivaliser avec les meilleurs. Donc je pense que ce qui fait notre force, c'est aussi ça, c'est le fait qu'on a un niveau plutôt homogène et qu'aujourd'hui on a su mobiliser notre effectif sur une période, enfin sur une majeure partie de l'année, je dirais, ce qui fait qu'on est quasiment compétitif tout le temps, en fait, peu importe l'équipe qui est en face. Donc je dirais qu'en plus, ouais, on monte en puissance parce que effectivement, je pense que c'est aussi lié à mon arrivée. J'ai souhaité au maximum amener mon réseau de joueuses internationales. qui, avant mes blessures, était plutôt déjà développée. Hein. J'ai eu la chance de concourir pour la qualification olympique de Tokyo. Je m'entraîne, j'ai eu l'occasion et la chance de m'entraîner avec des grandes joueuses. Donc, on a aussi utilisé ce réseau-là pour pouvoir recruter de beaux joueurs et de belles joueuses. Donc ouais, c'est vrai qu'on sent qu'on monte en puissance de plus en plus. Et l'idée, c'est d'avoir en premier lieu une équipe 100% compétitive quand on a tout le monde pour aller chercher les grosses équipes, mais aussi que ben voilà, quand les gros sets sont pas là, ben, qu'on ait un banc de qualité aussi, quoi.
Ah bah c'est intéressant ce que tu disais, parce que justement, je savais que t'étais très impliqué dans ce club, mais je savais pas que tu aidais un peu pour le recrutement. Donc en fait, c'est tu avec les décideurs, on va dire, de cette équipe à l'intersaison, tu fais quoi? Tu proposes des joueuses en disant, elle, je la connais, je sais qu'elle est fiable et potentiellement je peux la contacter. C'est comme ça un peu que ça se déroule?
Ouais, carrément. En fait, c'est ça. C'est que, ben, évidemment, c'est une des décisions collectives. Hein. Je prends pas ces décisions toute seule. Je sais que Jean-Claude Arnoux, le président du club, et toute l'équipe qu'il a derrière lui, de salariés, de bénévoles du club, ils sont toujours très très impliqués dans plein de choses. Me font confiance dans les échanges que je peux avoir justement avec les joueurs que eux ne connaissent pas. Et c'est ça qui fait la différence aussi. Tu vois, quand tu contactes un Marc Caljou, par exemple, ben, c'est toujours plus facile quand c'est Léa Palermo qui écrit plutôt que bah voilà, sans dénigrer qui que ce soit au club, bien entendu, parce qu'ils font un taf de fou, mais que voilà, hein, Renaud Arnoux, Jean-Claude Arnoux, ça parle moins aux joueurs internationaux, et c'est sur ça qu'on a réussi à jouer pour recruter des têtes d'affiche telles que Marc, telles qu'Iris Wang. Voilà, je pense que ça peut faire la différence, mais après c'est évidemment un travail d'équipe. On discute énormément, je suis régulièrement en contact avec Jean-Claude, on s'appelle quasiment toutes les semaines pour parler de tout plein de choses, pas seulement du top 12, mais aussi du fonctionnement du club. J'essaye d'être très impliquée dans la vie du club, parce que j'estime que c'est de notre devoir aussi en tant que joueur de haut niveau d'apporter une contribution, de pas seulement jouer les rencontres et d'être vraiment proactif au sein du club, parce que bah, les clubs, ils se démènent pour nous, et c'est très important de se montrer actif, ouais.
Jusque-là, cette saison, vous êtes dans une, j'ai envie de dire une poule homogène derrière Chambly. Juste, t'as parlé des 4 dernières saisons, mais est-ce que les objectifs cette saison, ils ont changé? Quels étaient ces objectifs finalement quand vous avez appris le contenu de les équipes qui étaient dans votre poule?
Dans tous les cas, ça a toujours été les playoffs. On a toujours voulu, tu vois, je suis partie aussi dans un projet très ambitieux. Si on se permet de revenir, il y a 4 ans, quand Jean-Claude et toute l'équipe sont venus vers moi pour me recruter au BASH, le projet, c'était d'aller aux playoffs. Voilà, c'est aussi chaque année on recrute pour aller chercher une qualif au play-off. Et je sais à quel point, bah évidemment, j'en parle, j'en ai des frissons, parce que je sais que ça a énormément de valeur et d'impact pour le club, d'une manière générale, de potentiel qualif au play-off. Donc cet objectif-là, il a toujours été celui qu'on se fixait en début de saison. Alors voilà, après, comme tu dis, en fonction des poules, ça varie, en fonction des présents, des absents. Mais là, cette année, en début de saison, on s'est dit qu'on avait les capacités d'aller chercher les playoffs, et c'est toujours le cas. Donc, je pense qu'on ne se ment pas à nous-mêmes, et en tout cas, on s'arrache pour essayer d'y aller.
Oui, donc après 8 journées, finalement, enfin, vous êtes dans les clous, entre guillemets, de ce que vous vous étiez fixé, et aujourd'hui, vous êtes toujours en passe de remplir cet objectif des playoffs.
Complètement, complètement. On est très, enfin moi, je suis très fière de cette équipe, hein, qui œuvre quand même, faut le rappeler, depuis plus de 2 ans, sans moi, en toute humilité. C'est vrai que Jean-Claude Arnoux, je pense à aucun moment il a souhaité me recruter il y a 4 ans pour coacher sur la chaise ou pour aider à la vie du club. Non, c'était pour me voir performer pour le club, me voir aller chercher des gros matchs aussi. Donc ouais, c'est une... franchement, je suis très fière des joueurs, de leur application, de ce qu'ils donnent sur le terrain, et on voit que ça paye. Tu vois, voilà, on est deuxième aujourd'hui. Alors par contre, c'est vrai que la fin du championnat, elle va être un peu à l'image de l'année dernière, où on a été leader pendant, si je dis pas de bêtises, jusqu'à la J6 ou J7. Et voilà, là, ça va être complètement fou encore cette année, mais c'est aussi pour ça qu'on fait du bad et qu'on kiffe le championnat interclub, c'est que jusqu'à la fin, on sait pas trop qui va accompagner Chambly au playoff, quoi. Mais ça va être, ouais, ça va être cool, ça va être serré.
Bah justement, on sait que visiblement, effectivement, ça va pas se jouer à grand chose entre vous, Strasbourg, le RCF et Arras. Et du coup, une petite question sur cette huitième journée. Vous avez gagné 7-1 contre Marom, qui est bien décroché en dernière place. Est-ce que cette victoire 7-1, t'as un petit regret avec si on va chercher ce double homme, on peut gagner un point en plus? Ou alors, est-ce que tu te dis plutôt on gagne pendant ce temps-là, Strasbourg et le RCF ne gagnent pas? On fait peut-être une très bonne opération, ou peut-être un peu des deux, ça marche aussi.
Honnêtement, je rigole quand tu parles de ça, parce que c'est vrai qu'il y a un peu des deux. Je pense que moi, à la fin de la rencontre, je vais voir le président en rigolant avec mon esprit un peu de compétition, en disant « Tain, ça fait chier, on aurait pu aller chercher le 8-0 et tout pour aller chercher ce bonus qui pourrait valoir de l'or, tu vois, à la fin des dernières journées. » Mais d'un autre côté, on gagne 7-1, quoi. C'est une victoire écrasante. Puis si on se positionne, tu vois, sur la première partie de saison, on fait aussi 4-4 contre cette équipe. Voilà, il y a pas leur joueur aussi. Il y avait pas Fabio, il y avait pas Martina, ils avaient pas leur Bulgare non plus. Mais tout de même, on a su profiter de cette ouverture là et on peut pas être déçu d'une victoire 7-1 face à une équipe de top 12. Voilà, ça reste un championnat très relevé. Et puis avec notamment Julien Maillot, que effectivement moi je connais très bien, qui sait toujours donner du fil à retordre à ses adversaires, peu importe avec qui il joue. C'est vrai qu'on peut être déçu de ne pas être allé chercher le 8-0, mais par contre fier quand même d'avoir été imposant hier, voilà, tout simplement.
Et tu parlais justement de la saison dernière, j'ai pas le craquage parce que c'était pas vraiment un craquage, mais du fait que vous ayez été en tête pendant 6 ou 7 journées. Aujourd'hui, je serais curieux d'avoir ton avis, parce que je trouve quand même que c'est une position bien différente, où l'année dernière vous avez peut-être plus profité encore des absences dans d'autres équipes avec un effectif encore plus restreint, alors que cette année je trouve que vous l'avez étoffé, et étoffé avec de la qualité. Je veux pas vous porter la poisse, mais c'est ça aussi qui nous fait penser que potentiellement ce sera plus facile, mais il y a beaucoup plus d'espoir que l'année dernière peut-être.
Ouais, tout à fait. Non, mais t'as raison, hein. T'as complètement raison là-dessus. Je pense qu'on s'est donné les moyens aussi d'avoir une équipe beaucoup plus forte, hein, tout simplement, cette année. On a beaucoup plus d'atouts. Forcément, je pense à Marc. Je pense à Iris, qui malheureusement n'a pas été beaucoup là avec nous, mais qui sera là sur la prochaine. Et voilà, ça va être décisif aussi contre Chambly. Ça va être très très important d'aller chercher, pourquoi pas un nul, une victoire ou même un 5-3. Voilà, c'est des choses qu'on a en tête pour la saison pour la rencontre prochaine, pardon. Je pense à Priscilla, Sia Aya, une jeune indonésienne allemande qui nous a rejoint cette année aussi, qui fait le job en simple dame 2 systématiquement. Donc ouais, non, c'est clair qu'en qualité, on a été super bon dans le recrutement, et je sais que plus les années vont passer et plus on sera bon là-dedans, parce que on communique plus, on fait attention, on veille justement à être vigilant sur l'articulation du calendrier international, qui n'est pas favorable à beaucoup de clubs, et on essaye de cibler les profils de joueurs qui pourraient à la fois toujours, je pense que c'est la priorité, coller avec les valeurs du club et les ambitions, forcément. Que ça roule sur toute une saison, sachant que tout ne sera jamais parfait, on le sait.
Et toi, de ton côté, sur cette journée, c'était ta deuxième de la saison, la deuxième d'affilée, puisque tu avais rejoué contre Arras il y a 15 jours. Et du coup, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens à 100%? Est-ce que tu as, après deux grosses blessures sur lesquelles on va revenir juste après, est-ce que tu as encore une petite gêne ou voilà, comment tu te sens sur le terrain?
Bah, je me sens super bien pour le coup comparativement à mon retour sur mon premier genou. Les sensations sont complètement différentes. Bah, évidemment, je pense que j'ai pris beaucoup d'expérience et de recul sur la compétition, sur l'entraînement en général, une année de plus. Et ce qui m'a permis d'arriver très très calme, très sereine sur le plan de l'énergie corporelle, je parle surtout. Et je me rends compte que la tête est bon, ça je le savais déjà, hein, mais que la tête est vraiment directement liée au corps, parce que bah, dans ma tête je suis calme, je me juge pas. Pour répondre à ta question, je sais que je suis pas à 100% de mon niveau, je suis pas à 100% de ma vitesse, et peut-être que je retrouverai même pas la vitesse que j'ai avant, mais par contre je me sens beaucoup plus sereine et beaucoup plus intelligente dans la manière de voir les matchs, de voir les échauffements, de voir les entraînements, et ça m'aide énormément. Enfin, ça, en tout cas, ça m'a énormément aidée sur ces deux dernières semaines où effectivement j'ai eu la chance de pouvoir rejouer mon tout premier match contre Arras, et puis bah là celui-ci il était particulièrement fort en émotion pour moi, parce que c'était la première à domicile depuis plus de 2 ans, donc c'est quelque chose quand même pour moi.
Et du coup, avec tu dis l'expérience que t'as maintenant, est-ce que si c'était, on va dire, à refaire ton premier retour après ta première blessure au genou, est-ce que tu ferais les choses différemment?
Ah, c'est une bonne question. Franchement, je pense pas, parce que en fait, si ce chemin, je pense qu'il était certainement tracé pour moi. Il y a eu peut-être des messages ou des perches que j'ai pas su recevoir ou prendre au moment où j'ai repris. J'étais dans un contexte émotionnel peut-être pas forcément idéal au moment où j'ai repris sur mon premier genou, hein, j'entends. Non, à refaire, je pense que je referais pareil. Peut-être j'aurais un tout petit peu attendu avant de reprendre l'international, chose que je change complètement cette fois-ci. Tu vois, j'avais en fait repris sur le moment de la J5 en janvier, puis la semaine d'après j'étais en Estonie, et tout le monde connaît la suite, hein, je me blesse en Estonie. Donc voilà, plus par superstition, je refais pas pareil cette année, c'est sûr. Mais je pense que l'état d'esprit est complètement différent. Émotionnellement, je suis plus du tout... une autre athlète, une autre femme.
On n'a pas forcément envie de parler de ta blessure, enfin voilà, tu l'as dit, on connaît tous et tout, mais quand je t'écoute là, j'ai aussi l'impression finalement que ta deuxième blessure, évidemment c'est pas des moments faciles, on a envie de rejouer aussi, mais t'as travailler aussi et progresser sur ton aspect mental, psychologique. J'ai entendu plein de liens que tu as fait avec ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé et que tu as compris après cette deuxième blessure? Le lien, finalement, bah, tu l'as dit, mais tu l'as parfaitement dit, cerveau-corps.
Ouais, tout à fait. En fait, cette deuxième blessure, je dirais qu'elle m'a confrontée au néant, en fait, à la dépression, l'oubli, l'autonomie, enfin, il y a plein de choses qui sont sorties en moi en termes d'émotions, et je me suis vraiment très peu reconnue sur le premier mois où je me suis reblessée, en janvier là, 2023. Et je pense que ce que j'ai appris, effectivement, c'est de faire les choses pour soi, en fait. Tu vois, dans le haut niveau, c'est vrai qu'on est toujours dans une quête, une quête de médailles, une quête de lumière, une quête de, tu vois, de celui qui va le plus vite, le plus fort, qui est le plus beau. Enfin, et c'est vrai que moi j'ai pris énormément de recul vis-à-vis de ça, parce que je me suis rendu compte que le fait d'être à l'arrêt, bon, déjà c'est hyper inconfortable, parce que c'est une passion, le bad, et en plus le bad je le fais pour moi, quoi. Je le fais pas, pour la fédé, je le fais pas pour les journalistes, je le fais pas pour pour qui que ce soit autour, même si tout est important, hein, les partenaires, sans eux, mon club, mes sponsors, le département, enfin tout ça, moi je suis pas grand chose sans eux, mes proches, mais tu fais avant tout les choses pour toi, et en fait c'est vrai que la tête, j'ai eu du fil à retordre, parce que t'es confronté à toi-même, en fait. Tu vois, quand t'es dans ta merde, tu nages dans ta merde, pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a que toi qui peux t'en sortir, en fait. Hein. Et quand t'es directement confronté à des situations hyper difficiles comme ça émotionnellement, t'es obligé de te connaître parfaitement et de cerner les outils qui te sont propres pour pouvoir sortir de cette dépression et de ce moment vraiment horrible. Et c'est ça qui, moi, aujourd'hui, fait que je suis très fière de la personne que je suis devenue aujourd'hui, quoi.
Est-ce qu'il y a, dans ces moments difficiles, comme tu en parles, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es posé et tu t'es dit, est-ce que ça vaut le coup de tout redonner pour essayer de revenir et de revenir à ton niveau et de rejouer? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, est-ce que tu as hésité en fait à arrêter ta carrière tout simplement et te dire, ça vaut peut-être pas le coup de continuer?
Bah bien sûr, bien sûr. Bah au moment où je me reblesse, je dis à Julien, c'est fini. Enfin voilà, je suis sur le terrain, je pleure, il pleure. Je lui dis, c'est fini quoi. Parce que je sais que c'est grave et je me retrouve dans les couloirs des urgences estoniennes à Tallinn. Je me dis, c'est un cauchemar, réveillez-moi quoi. Enfin pour moi c'était inconcevable que mon destin soit aussi tragique quoi. Et forcément, je vous disais dans le premier mois qui a suivi, je suis en dépression. Hein. Franchement, je parle à personne, je donne de nouvelles à personne. Franchement, il n'y a rien qui se passe en moi. J'ai plus d'énergie, j'ai même pas des mots. Enfin, si, je fais que pleurer, mais c'est la tristesse de ne pas avoir cette chance de nouveau de pouvoir m'exprimer, de pouvoir créer et puis de pouvoir revivre des émotions de fou sur des terrains de bad, quoi. Mais évidemment que j'ai pensé à arrêter ma carrière parce que c'est trop dur en fait. Voilà, à peu près un an et 3 mois, se reblesser gravement, la même blessure, parce que tu sais par quoi t'es passé quoi. Tu sais que c'est pas une blessure de 2-3 mois qui voilà, ou si t'es exigeant sur les 2-3 mois, bah tu reviens à ton plus haut niveau. Bah non, là c'est vraiment t'as une opération, tu peux plus marcher, tu réapprends tout quoi, les amplitudes, la force. C'est une pathologie qui est vraiment très difficile et très longue. Donc oui, je dirais que c'est à partir du 4e mois où je me suis dit « Non mais je mérite quand même, je mérite mieux que ça, je mérite de me réexprimer comme je le sens, de reprendre plaisir. » Là, c'était même plus la performance, hein, vous voyez, c'était vraiment le kiff, quoi. Le kiff du jeu, le kiff du sport. Et je trouvais que au vu de mon parcours et de ma personnalité, que je méritais pas de m'arrêter sur une blessure et que j'avais à cœur de respecter aussi le travail, l'exigence, les choix que j'ai fait par le passé pour aller au bout du truc quoi, vraiment.
C'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que enfin on a reçu Arnaud Merclé il y a quelques semaines maintenant, peut-être un peu plus, et justement c'est pas la même blessure, mais il parlait de sa hanche, et en fait c'est assez intéressant que vous, en tant qu'athlète de haut niveau, parce que ça a pas toujours été le cas, vous acceptiez finalement de parler oui la blessure c'est dur etc, mais enfin en fait ce qu'il y a derrière aussi, et enfin on peut se blesser à tout niveau, mais c'est hyper instructif de savoir comment vous, en tant qu'athlète de haut niveau, bah forcément, oui, c'est votre kiff, mais c'est aussi votre vitrine, c'est aussi à travers ça qu'on vous voit, le public et tout. C'est vraiment hyper instructif de savoir comment vous le vivez et comment vous le vivez parfois différemment. Mais c'est vrai qu'en fait, on se rend compte qu'au-delà de la blessure, tout n'est pas si simple.
Ah oui, c'est clair, parce que c'est aussi... tu vois, moi, j'ai quitté ma famille, j'avais 14 ans, et depuis que j'ai 14 ans, je fais que ça aussi, quoi. Donc, t'es là, du jour au lendemain, en plus, c'est brutal, quoi. Enfin, je veux dire, moi, c'est traumatisant, c'est un traumatisme. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le traumatisme, parce que, comparativement à Arnaud, lui, voilà, il a fait le choix de se faire opérer.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, moi, j'ai pas eu le choix. Je m'explose en fait par terre 2 fois. Je me relève pas. J'ai mal. La première, c'était une urgence. Fallait que je me fasse opérer dans les 5 jours parce que j'avais un bout de ménisque qui me coinçait mon articulation. Et la deuxième, bah, tu sais que c'est grave, mais j'ai mal, je me relève. Enfin, c'est avant tout un choc aussi émotionnel. Mmh. Et au-delà de l'athlète, c'est l'être humain qui prend hyper cher, quoi. T'es reconnu aussi d'une certaine manière. Et c'est là où j'ai moi beaucoup évolué. J'ai beaucoup appris sur les autres avant tout. Évidemment, beaucoup sur moi, mais aussi sur les autres. C'est que nous, on est reconnu par ce qu'on fait sur le terrain, par nos performances et tout, mais on n'est pas, personne sait qui on est quoi. Même d'ailleurs, moi j'apprends toujours à savoir qui je suis au quotidien, parce que c'est ça qui est le plus important. Au-delà de comment nous on est perçu par le monde extérieur, j'ai appris vraiment pendant ces 2 années, particulièrement cette dernière année, à m'auto-alimenter aussi et à à m'enrichir de mes ressources propres. Tu vois, c'est un peu philosophique ce que je dis, mais c'est ça quand même, quoi.
Et du coup, tu disais justement que tu ne voulais pas refaire comme ce que tu avais fait la première fois et retourner sur de tournois directement. Du coup, qu'est-ce qui t'attend là à court terme, du coup, sur la manière dont tu vas rejouer progressivement? Et à long terme, est-ce que par exemple rejouer à l'international au plus haut niveau possible et notamment en équipe de France, est-ce que ça fait partie de tes projets?
Bien sûr, bah évidemment, évidemment, à partir du moment où j'ai décidé, je vous disais à peu près à partir du cinquième mois, pardon, après l'opération, l'objectif que je me suis fixé, c'est médaille européenne en 2025. Il était très clair. Celui-là, il me met des frissons. Celui-là, il pourrait me faire chialer en m'imaginant sur le podium avec ma médaille en double mixte avec Julien. Donc c'est celui qui me drive tous les jours aujourd'hui. À partir du moment où j'ai décidé de me fixer cet objectif-là. Donc ouais, il y a un gros objectif international. Je vais prendre le temps, effectivement, en tout cas, si on peut parler à très court terme. L'idée, c'est de finir la saison interclub avec le club parce que ça me tient énormément à cœur de pouvoir donner mon maximum pour qu'on essaye d'aller chercher cette qualif au play-off. Et puis après, ponctuellement, d'aller sur des compétitions internationales. Alors évidemment, vous doutez bien que j'ai plus aucun ranking. Donc, du coup, c'est hyper chaud de rentrer dans des compètes. Mais là, il va y avoir des ouvertures. On sera au Luxembourg en mai. On sera à Nantes en juin avec Julien. Et puis, ce serait cool qu'on soit à Orléans aussi. On s'est inscrit, mais on est remplaçant 5 pour l'instant. On va voir. Mais il y a des gros projets de compétition. On va pas s'enflammer pour l'instant. On fera une compète par mois. Parce que physiquement, voilà, faut pas sous-estimer l'impact et physique et psychologique que ça peut avoir de revenir à la compétition avec des gros objectifs. Mais voilà, objectif finir la saison interclub, idéalement les playoffs en mai avec le Bash et puis progressivement des compétitions internationales avec Julien en mixte.
Et justement, là, tu me parles surtout de mixte, et j'ai remarqué que du coup, tes deux matchs que tu as refait en interclub, c'est du mixte aussi. Est-ce que tu évites le double dame parce que c'est des déplacements différents et que ça te fait un peu plus peur? Ouais, c'est à cause de ça, du coup, c'est fait exprès. Et du coup, tu ne vas pas rejouer en double dame à court terme, quoi.
Alors, pour le coup, le double dame, j'en referai. Hein. J'en referai en interclub. Il n'y a aucune contre-indication à refaire du double dame. Pour le coup, en plus, c'est une discipline que j'ai pratiquée quand même pendant des années avec Delphine où je sais que j'ai encore vraiment de grosses aptitudes. Et je sais que je peux avoir un vrai bon niveau, surtout sur le championnat interclub en double dame. Là, c'est plus stratégique par rapport à mon retour. Sur le plan des déplacements, effectivement, tu l'évoquais. C'est pour moi, c'est plus rassurant en tout cas de repartir sur des premiers matchs en mixte. Sur le plan international, c'est 100% sûr que je referai plus de double dame, en tout cas pas prochainement, pas à horizon Europe 2025, parce que c'est l'objectif principal avec Julien qu'on s'est fixé. Et je voudrais pas venir interférer avec un autre projet parce que physiquement. Je sais déjà que j'ai pas envie d'investir autant. Et puis après, oui, le double dame en interclub, ça se fera évidemment.
D'accord. Et ben, c'était notre dernière question. Et ben, du coup, merci beaucoup d'être venu. Et puis, on te souhaite surtout une très belle fin de saison avec Cholet. Effectivement, tu l'as évoqué. Vous avez la réception de Chambly fin mars. Un déplacement à Chambly, pardon, fin mars, qui va être très costaud. Et surtout, en plus, là, après la réception du Racing Club de France, qui est également un candidat à cette deuxième place. Donc, ça s'annonce très très chaud. Et on te souhaite le meilleur pour ton équipe et pour toi.
Merci, merci beaucoup, merci pour tout. Et puis ouais, ça s'annonce épicé cette fin de saison. C'est clair, mais c'est cool, c'est pour ça qu'on joue tous au bad.
I'm the bad guy.
Take that!
Nous, de notre côté, on va se concentrer sur les autres rencontres de cette huitième journée. Et une rencontre très, très, la plus importante, je pense, peut-être. Je l'ai mentionné avec Léa. C'était la rencontre entre deux candidats à la montée, même si, bon, Arras, ces derniers temps, avait de moins en moins la tête d'un candidat. Le BCA s'est peut-être relancé, tu vas me dire ce que t'en penses juste après, Benoît, en gagnant 5-3 à domicile contre Strasbourg. Alors évidemment, des absences du côté strasbourgeois, notamment celle d'Alex Lanier. Qui a sûrement coûté cher, celle de William Villéger, toujours malheureusement je le cite de moins en moins parce que ça fait un moment qu'il est pas là. Rosie Pancassari également absente puisqu'elle était en tournoi, ça fait beaucoup. Côté Arras, on avait une équipe quasi type, hein, je pense, puisque c'est vraiment c'est, alors Rachel Dara n'était pas là, mais c'est, je pense, la tête qu'a eu l'équipe le plus souvent cette saison, pas de Jordan Hart non plus. Victoire 5-3 d'Arras. Arras qui allait gagner les 4 simples déjà, plutôt facilement pour 3 d'entre eux, on va dire. Léo Van Gisel qui bat Nathan Bega 17 et 17. 15 et 15 pour Chloé Birch contre Malia O'Haro. Et Marie Batomen qui gagne 21-12, 21-9 contre Kelly Bankopanit. Toby Penty lui a plus galéré, hein, contre Daniil Dubovenko. Le joueur ukrainien, le joueur israélien, pardon. Toby Penty qui gagne 21-15, 14-21, 21-18. Et la dernière rencontre, le dernier match, pardon, gagné par le BCA, c'est le double mixte 1. La paire britannique Van Leeuwen Birch qui gagne en 3-7 contre Emming Vorobeva. De l'autre côté, Strasbourg qui gagne le double homme, gros combat en double homme, mais Bega Emming bat Rossi Van Leeuwen 21-18 au troisième. Double dame gagnée par Sharon Bauer et Victoria Vorobeva 21-15, 21-15 contre Marie Batomen et Emily Lefel. Et enfin, Daniil Dubovenko et Sharon Bauer qui gagnent le mixte 2, 21-11 contre Rossi Lefel. Benoît, qu'est-ce que ça t'évoque cette rencontre, et on parlera plus tard des conséquences au classement.
Ça m'évoque deux ou trois sujets. Le premier, c'est pour répondre à ta première question, je sais pas si ça a relancé Arras. Oui, d'un point de vue individuel, enfin d'un point de vue que Arras, si on regarde globalement, j'y crois toujours pas des masses. Maintenant, il valait mieux gagner que perdre, on est d'accord. Je trouve que cette rencontre aussi, elle met en avant peut-être le manque de profondeur d'effectifs de Strasbourg cette année. Là, pour le coup, il y a des absences, mais tu as mentionné William Villéger, Alex Lanier, qui a pas joué aux Europes par équipe et qui a manqué là aussi sans doute, mais qui s'est blessé après ces deux matchs en top 12 à la dernière journée. Qui visiblement n'était pas prêt à jouer là sur cette journée. C'est plus ça qui a manqué à Strasbourg. Là, pour le coup, la frustration, bah oui, elle existe, parce que je pense quand même que Strasbourg à effectif complet était meilleur. Si on décale Daniil Dubovenko, qu'on fait jouer deux matchs à Alex Lanier, c'est plus la même équipe. Maintenant, là, pour le coup, ouais, Strasbourg, c'est vraiment un sujet de profondeur d'effectif cette année, je pense, qui leur coûte un peu cher, parce que... c'est pas pour dénigrer Arras, mais je pense effectivement, je le redis, à effectif complet, cette équipe de Strasbourg, je la vois légèrement au-dessus. Mmh. Mais là, ouais, les chances pour moi, elles sont, c'est fini quoi. On avait dit que Strasbourg s'était un peu relancé, mais là, ça sent pas bon.
Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que Strasbourg a vraiment pas de chance, parce que c'est des absences liées aux blessures, alors pas celle de Rosie Pancassari, mais c'est,
oui.
Là pour le coup, souvent on dit ouais, c'est parce que c'est l'année de qualif olympique et tout, là pour le coup, c'est même pas vraiment le cas en fait. Donc c'est vrai que c'est pas de chance pour Strasbourg, mais qui de toute façon a eu beaucoup d'absences aussi toute la saison. Et côté Arras, eh ben, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le jouent, cette qualif olympique. Ça aide aussi à avoir un peu toujours la même équipe à chaque rencontre. De l'autre côté, alors on va aller beaucoup plus vite sur celle-là, la victoire 8-0 de Chambly en déplacement au RCF. Le RCF qui avait fait un peu tourner, qui était privé de pas mal de monde. Je pense qu'on avait, côté parisien, on avait fait une croix sur cette rencontre. Pas de Arthur Vakevich notamment, pas de Polina Burova non plus. Anne Tran, elle, était bien présente. Mais donc 8-0 pour Chambly, un seul set de concédé, c'est justement le mixte 1, Rongé Tran, qui a pris le premier set face à Ellie Smith avant de perdre 16 au troisième. Le reste, ça a plutôt déroulé côté camblisien. Jan Lauda, le Tchèque, était encore là. Il a gagné facilement face à Hugo Mussou. Thomas Rouxel aussi en simple homme 2. En simple dame, on a eu Léonie Sué et Émilie Drouin qui ont gagné. Les Delru étaient là. Fabien a gagné avec Eloi Adam en double homme, et Delphine a gagné avec également Eloi Adam en mixte. Et sinon voilà, pas grand chose. On a même vu Léonie Sué en double dame avec Lauren Smith, mais Benoît, voilà, quand je pense que l'URCF avait fait plus ou moins une croix sur cette rencontre, et du côté Chambly, ça file toujours plus rapidement vers cette première place de poule.
Ouais, t'as tout dit, plus que moins hein, pour la croix, je pense. Pas de Ginger Stadelman que t'as pas mentionné non plus, non, très clairement, même pour une rencontre à domicile. Et ça peut se comprendre, hein, encore une fois, faire venir des joueurs pour gagner, pour perdre 6-2. Bon, on peut difficilement en vouloir au RCF, leur saison se joue pas là. Mais moi, ce que je retiens quand même, c'est que je note que Chambly semble avoir trouvé son simple homme 1. Alors, je juge pas Jan Lauda à sa victoire contre Hugo Mussou, mais je juge plutôt ça à la confiance que Chambly lui apporte là ces dernières journées, et je trouve qu'il la rend bien et qu'elle est totalement justifiée.
C'est vrai, je sais pas si c'était le plan dès le début de se dire que Vitingus jouerait au début et que lui joue maintenant, ou alors est-ce qu'ils ont pris acte de la mauvaise forme de Vitingus et ils ont décidé de le faire jouer maintenant. On en parlera quand on aura un représentant de Chambly dans le podcast. Mais effectivement, c'est intéressant à noter, sinon pas beaucoup d'enseignements dans cette rencontre. De l'autre côté, on va passer d'un taulier à l'autre et se concentrer sur Foss, qui est allé gagner 6-2 contre un autre club de l'Île-de-France, le VGA Saint-Maur, qui était deuxième avant le début de la rencontre et qui l'est toujours d'ailleurs. Donc Foss qui se déplace chez son dauphin. Et là, il y avait du bon gros match à regarder pour le coup. Hein. C'était très, 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 très intéressant comme rencontre. Notamment les deux simples hommes. On a Thomas Junior Popov qui a perdu un set contre Eno Garoua, le deuxième. Mais il s'impose malgré tout 21-17, 14-21, 21-13. Christo Popov, pour lui, ça a été plus facile contre Yanis Godin, 21-12, 21-15. Gros match également en simple dame où Anna Tatranova a réussi à battre Zera Erdem, la joueuse turque. Je sais pas si elle s'était jouée, Benoît. Non, je pense pas qu'Anna Tatranova ait pas été titularisée contre la Turquie la semaine d'avant au championnat d'Europe. Mais là, elle gagne 17-21, 21-19, 22-20. Tandis que Bénédicte Silassène va également chercher le deuxième simple dame pour le VGA, 21-14, 21-8 contre Elsa Jacob. Donc 2-2 sur les simples, mais Foss est allé chercher les 4 doubles. Tom Lalotte-Écart a gagné ces deux matchs, il a gagné le double homme avec Thomas Junior Popov contre Katoen Godin, et le premier mixte avec Mei Suro contre Katoen Lemoulec. Et Christo a gagné avec Elsa Jacob le mix contre Eno Garoua et Emilie Verselot. Et le dernier match, c'est le double dame avec la paire danoise Finne Ibsen-Suro de Foss, qui a lâché un set contre Anna Tatranova et Emilie Verselot, mais qui a gagné quand même. Benoît, déjà, avant que tu me donnes... Enfin, tu vas me donner ton avis, mais on peut commencer par dire que c'était une belle rencontre de top 12 déjà.
Oh bah carrément, la meilleure de cette journée je pense, ou pas loin en tout cas. Mais moi j'avais très très hâte de voir ça, et j'ai bien kiffé que la défaite elle est presque un peu dure, je trouve. Le 6-2 est presque un peu sévère parce que le VGA a clairement donné du fil à retordre à Foss, et j'aime vraiment cette je sais pas quoi, c'est pas cette atmosphère, mais ce truc qu'il y a quand le VGA joue chez lui cette année, il y a vraiment un truc qui se passe. Et encore une fois, franchement, je sais, ils étaient un peu loin de faire l'exploit quand même, mais tu sens que c'est pas très loin. Il y a des mecs, qui s'arrachent, quoi. Eno Garoua qui prend un set à Tommy. Ouais, vraiment, moi j'aime vraiment bien ce truc qu'il y a au VGA, et je trouve que ce 6-2, un tout petit peu sévère, même si évidemment quand on voit les matchs et le contenu, c'est tout à fait logique que Foss l'emporte.
C'est clair, et ils ont montré là qu'ils n'étaient pas des deuxièmes par défaut et qui voilà, ils sont loin d'avoir volé leur place le VGA, et c'est vrai que ça fait plaisir et ça donne toujours des très beaux matchs quand ils jouent. Mulhouse n'a pas joué sur cette journée. Le dernier match, il était entre Aix-en-Provence et Aire-sur-la-Lys. 4 partout sur cette rencontre. Alors il y a eu des matchs pas du tout serrés, puisqu'on avait fait des croix sur certains matchs des deux côtés, notamment Aix qui avait lâché le simple 2 et R qui avait lâché le simple dame 2. Donc il y a eu des petites raclées. Que dire à part que Junwei Sheam, le Malaisien, était là pour Aire sur la Lys. C'est assez rare pour être souligné. Il a gagné ses deux matchs en simple homme contre Grégoire Deschamps et en double mixte avec Flavie Vallée contre ce même Grégoire Deschamps et Juliette Moinard. Ronan Labarre, lui, a perdu le double homme, mais il a gagné son mixte avec Maria Mitsova contre Louis Ducrot et Yael Oyo. Yael Oyo qui a perdu son simple dame contre Lian Tan. Voilà, et je pense que j'ai parlé de tous les matchs. Non, je termine avec le double dame qui a été remporté par les locaux d'Aix-en-Provence. Donc deux simples et deux doubles pour chaque équipe. Rencontre un peu bizarre, Benoît, et voilà, même si c'est accroché au score, c'était pas la rencontre la plus passionnante de l'année, parce qu'il y a eu des bonnes grosses raclées sur certains matchs. Match en 3-7, ça veut un peu tout dire.
Allez, on passe tout de suite au classement de cette poule.
Voilà, j'aime quand tu fais gagner du temps.
Non, mais enfin, je peux quand même répondre de manière polie, mais il y en a qui ont lâché les matchs. Je suis désolé, hein, mais j'ai rien contre les joueurs R4 ou R5 qui sont alignés. Mais pardon, mais enfin, 21-0. Enfin, je suis désolé, mais j'ai même pas envie de taper sur la joueuse, parce que elle avait pas envie d'être là. Tu marques 3 points contre Maria Mitsova, je pense pas que t'aies envie d'être là, même si t'as joué une rencontre de top 12. En vrai, c'est juste relou pour l'image du championnat. On en avait déjà discuté, on a déjà reçu R, hein, dans le podcast. Voilà. Ils ont pas mal subi les absences, et en fait c'est ultra frustrant parce que Romain Clotofoucau est pas remis à 100% pour jouer, et en même temps quand tu vois qu'ils font venir Junwei Cheam qui doit coûter de la thune, on va pas faire les langues de bois, c'est hyper frustrant de se dire que t'as aligné une R5 en top 12. Je suis désolé, mais c'est une joueuse qui aurait peut-être son niveau sa place en N3, et encore on est même pas sûr avec ce classement, tu vois. Enfin, c'est triste pour tout le monde, pour le spectacle, pour les clubs qui alignent ce genre de performance. Enfin, voilà, on le répète de semaine en semaine, mais c'est pas de la bonne pub et c'est pas une bonne nouvelle pour le top 12, ce genre de truc.
Non, c'est clair. En fait, Benoît, c'est le système qui est comme ça. Système qui est fait comme ça, et surtout, c'est à partir du moment où Talence a abandonné et que tu sais qu'il n'y a pas de descente, et ben là, c'est deux équipes qui ne jouent plus rien, en fait, et voilà ce que ça donne, quoi. C'est surtout ça le problème, c'est un mélange de pas mal de choses, et comme voilà, les deux équipes savent qu'elles ne vont pas descendre et qu'elles ne peuvent pas jouer les playoffs, et ben elles n'ont aucun intérêt. Et j'ai envie de dire heureusement que R nous ramène Junwei Sheam, parce que c'est un peu la seule attraction de cette rencontre et la seule chose que moi je vais en retenir, je pense.
Ouais, bah c'est même ça qui est bizarre, tu vois.
Oui, c'est vrai,
parce que Aix, bon, ils ont Lian Tan qui oui doit coûter un peu d'argent, mais Lian Tan, il y a un truc historique, elle est là depuis des années et tout, mais t'as ramené aucun autre étranger à part Maria Mitsova, mais je la classe comme Lian Tan dans ces joueuses qui sont là depuis longtemps. T'as pas ramené d'autres joueurs, t'as pas ramené Jesper Toft, etc. Et de l'autre côté, t'as R qui ramène Junwei Cheam. Alors je sais pas si c'était possible de faire sans lui, mais tu te dis c'est quand même chelou, parce qu'il t'aurais pu faire peut-être cette économie là. Et bon, voilà, c'est juste ça, c'est assez bizarre.
Question classement, donc dans la poule 1, Chambly largement en tête avec 42, ils ont 15 points d'avance sur Cholet qui est à 27, et donc c'est là que ça reste toujours très intéressant, puisque 3 points entre le deuxième et le cinquième. Cholet 27, Strasbourg 25, RCF 24, Arras 24, et Marom qui est à 7 points et donc qui va descendre, mais ça on le savait. Benoît, petit update sur cette course à la deuxième place. À chaque journée je te le demande, et je crois que jusqu'à maintenant le cheval sur lequel tu avais misé, c'est Strasbourg, mais j'ai l'impression, vu ce que tu m'as dit tout à l'heure, que tu vas peut-être changer de cheval là.
Ouais, écoute, alors la discussion qu'on a eue avec Léa Palermo, je sais pas si elle m'a convaincu parce que on avait à peu près tous la même analyse sur la fin de saison de Cholet, mais honnêtement, j'y crois assez fort. Je suis pas sûr qu'un William Villéger revienne à temps, ou en tout cas pas en assez grande forme. Alex Lagné, a priori, je peux pas parler pour lui, mais ça a pas l'air d'être une grave blessure, donc on peut imaginer qu'il revienne. Ouais, écoute, j'ai envie de dire Cholet qui aura probablement son destin en main à la dernière journée. À voir ce qui va se passer contre Chambly, évidemment, la prochaine, mais ouais, Cholet, je sais pas ce que t'en penses.
Moi, je vais...
Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre?
Je vais rester sur Strasbourg, moi, parce que.
Ok,
parce que...
entre les deux, du coup.
Parce que Strasbourg va repasser deux. Enfin, le truc, c'est que Cholet et Arras doivent encore jouer Chambly. Donc tu joues encore le gros monstre, même si à voir ce que va faire Chambly, parce que Chambly ils sont sûrs d'être premiers maintenant, donc est-ce qu'ils vont continuer à s'arracher pour mettre des 8-0, je sais pas. De son côté le RCF lui joue les deux rencontres les plus intéressantes, puisque le RCF accueille Strasbourg et va à Cholet, donc eux ça va être les deux grosses rencontres. Mais voilà, je pense que Strasbourg doit encore jouer Marom en plus, donc je pense que ça peut le faire pour Strasbourg, même si voilà, là ils se sont pas mis dans la position effectivement la plus confortable. De l'autre côté, alors le classement il ressemble pas à grand chose dans cette poule, puisque toutes les équipes ont pas exactement le même nombre de rencontres jouées, mais Foss est toujours en tête devant Saint-Maur. Derrière on a Mulhouse et Aix et R qui est un peu largué. Benoît, est-ce que en gros Mulhouse peut empêcher Saint-Maur de le faire, ou pour toi maintenant c'est fait, en sachant que Mulhouse doit encore recevoir Foss?
Ouais, recevoir Foss et aller à Aix.
Après, quand on voit comment ils abandonnent.
Ouais, voilà. Oui, après c'est Aix, mais bon là c'était aussi Aix. Donc oui, cette rencontre va sans doute être cruciale. Maintenant, je vois. Franchement, je vois pas le VGA aller en prendre une. Je vois pas Saint-Maur aller en prendre une AR.
Moi non plus.
Honnêtement. Donc j'ai tendance à... Puis il faudrait en prendre une belle, en fait. Tellement... Non, je pense que c'est terminé. Et... Ouais, je pense que c'est fini. Et je veux pas leur porter la poisse, parce qu'on a toujours dit cette saison que ça allait craquer. Franchement, ils méritent de toute façon d'y aller.
Ouais, et bon, c'est pas fait, mais et je sais plus si on avait fait des pronostics en début de saison, mais si on nous avait dit au début.
On avait
que...
annoncé du maintien, non ?
Ouais, bah je pense, ouais. Et que Saint-Maur serait au play-off et même serait encore deuxième à la 8e après la 8e journée, c'est quand même assez fou. Voilà, donc la prochaine journée, donc c'est le 23 mars, me semble-t-il, et c'est surtout maintenant dans la poule 1 qu'on va regarder, puisque comme Léa nous l'a dit tout à l'heure, maintenant l'intérêt c'est qui va aller avec Chambly en play-off, et notamment un petit RCF Strasbourg qui va être très très sympa. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi.
Merci à toi comme toujours, et merci à vous pour votre écoute.
Et maintenant on passe en mode tournée européenne, les enfants. On va commencer tranquillement avec le German Open la semaine prochaine, et ensuite IFB, où notre présence n'est pas encore assurée, mais normalement ça devrait pouvoir se faire. Derrière All England plus Orléans Masters plus après Swiss Open, et c'est justement en même temps que le Swiss Open qui aura cette 9e et avant-dernière journée de top 12, que l'on débriefera également avec un ou une nouvelle invitée si tout se passe bien. Merci de votre fidélité et d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Je rappelle qu'il y a le Discord qui fête ses un an ce mois-ci, me semble-t-il, qui est toujours dans la description si vous voulez parler de ces différents sujets avec nous. À la semaine prochaine.共同感受这片天。